Salut les joueuses, salut les joueurs. Nous sommes en février 2026 et vous écoutez un nouvel épisode de Un jeton dans la mare, une émission de Proxy Jeux, le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Caducée et aujourd'hui je vous propose de zoomer sur des jeux qui annoncent des expériences et des mécaniques très différentes. Plateau, retourne et gribouille, adresse, narration, peut-être allez-vous trouver celui qui fera chavirer vos cœurs, ou pas. Et pour m'aider ce soir à garder raison, je suis accompagnée par deux camarades. Bonjour Mad.
Salut Caducée. Comment ça deux camarades, où sont passés les autres ?
Alors, moi j'ai une théorie, je pense que les virus hivernaux n'y sont peut-être pas pour rien, ou alors, ça je laisse à chacun la volonté d'y croire ou pas, peut-être que c'est juste cette diffusion prévue un vendredi 13, voilà. Mais bon, sortie restreinte en décembre, fin décembre, janvier, bon bah comité restreint aujourd'hui, on devrait s'en sortir quand même.
En tout cas, j'espère que nos auditeurs et nos auditrices sont en meilleure santé que les chroniqueurs chroniqueuses de chez Proxy Jeux.
Je leur souhaite aussi. Et ce soir, on dit bonjour et bienvenue à Kurtz, qui nous rejoint pour la première fois sur l'émission.
Salut Caducée, salut Mad et bonjour aux auditeurs et aux auditrices. C'est avec plaisir que je suis là ce soir pour ma première, effectivement, dans le jeton dans la mare.
T'es prêt à te jeter dans le grand bain ?
Alors c'est une mare, hein, donc le grand bain, c'est pas très profond, ça. On a pied tout du long, hein, t'inquiète pas.
On va commencer par un petit retour sur les commentaires de la dernière émission. Elle était consacrée à Seven Wonders Dice, Viva Katrina, Arigato, Le Chat et la Tour, 13 feuilles et Amanite, que vous pouvez toujours bien sûr écouter si cela n'a pas déjà été fait. Je vais déjà faire un petit merci général pour vos encouragements, vos compliments. Ça fait toujours très plaisir et c'est super motivant. Je retiens la phrase de un culte savant, je le cite, « C'est un épisode qui fait du bien au portefeuille ». Voilà, donc si on a pu vous aider à choisir de façon adaptée les jeux de vos deux derniers mois, bah, écoute, c'est avec plaisir qu'on y participe de cette façon aussi.
La question est de savoir si l'épisode de ce soir va aussi faire du bien au portefeuille.
On fera une petite conclusion à la fin pour voir un peu déjà ce qu'on en pense les unes les autres.
Et ce qu'on achète, ouais.
Exactement. T'achètes ou t'achètes pas. C'est le nouveau concept de fin d'émission.
C'est ça.
Ensuite, concernant le chat et la tour, Elodie nous a mis le lien pour accéder aux récompenses narratives qu'on peut consulter en progressant dans la construction de la tour. Bon, sachez que de mon côté, je suis toujours pas arrivée à l'étage 15. Et sur le Discord, on a d'ailleurs eu une belle photo postée par Robinocrite avec une tour de 15 étages. Ben, bravo et merci pour la photo.
Ah, impressionnante cette photo, oui.
Alors, quand j'y ai joué la dernière fois, j'ai fait renverser la tour juste en reprenant la pile de cartes pour la remélanger, pour continuer. Ouais, c'était très décevant.
Ouais, le classico.
Pour ma part, j'ai pu essayer le jeu Météo dont tu avais parlé, Mad, en le mettant en parallèle de Amanite. Et c'est vrai qu'en fait, les sensations, elles sont plutôt bonnes pour un jeu au format ramassé. Alors, j'en profite pour te remercier de ta recommandation, en tout cas de cette petite mise en lumière de la dernière émission.
Avec plaisir. Alors, tu as retrouvé un peu des choses d'Amanite, tu confirmes ?
Oui, oui, je confirme. Mais c'est vrai que ça reste beaucoup plus immédiat. C'est plutôt sympa à sortir pour une petite partie rapide. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur notre dernière sélection avant qu'on passe à la suite ?
Ben dans la sélection précédente, il y avait un roll and write et un jeu d'adresse. Ben peut-être que ce soir, il y en aura encore.
Oui, on a fait une sélection assez large là, au niveau type de jeu mécanique. On va voir ça. C'est donc maintenant le moment de remercier tous les donateurs et donatrices qui nous aident à réaliser et diffuser ce podcast.
Donc nous remercions Cédric, Robinokirit, Cattroy, Ricky, Altaripa, Sisyphus, Chacado et Mouton.
Merci aussi à Gnocchi Flette, Frédéric Moulis, Hammer, Roland, Pascal Mathieu, Caucase et l'ami Bobby Fada.
Et merci également à notre partenaire, la Caverne du Gobelin. La Caverne du Gobelin, ce sont 6 boutiques et cafés-jeux à Nancy, Metz, Pont-à-Mousson, Thionville, Toul et Semécourt, ainsi qu'une boutique en ligne accessible sur cavernedugobelin.fr. Au programme aujourd'hui, Day One, Yubibo, Butterfly Effect, The Dark Quarter, Alice de l'autre côté du miroir et DJ 7. On commence avec Day One de Johan Goupy et Johan Levet, un jeu de positionnement à objectif. À l'aide de cartes, vous placerez des camps vous appartenant sur un terrain composé de zones de paysages différents et dont la taille totale varie selon le nombre de joueuses. Ce placement vous permettra de valider des objectifs définis par des tuiles personnelles que vous choisirez au fil de la partie. Le dos de boîte nous annonce un jeu stratégique dynamique qui allie placement tactique et optimisation de cartes. Kurtz, je te laisse prendre la parole.
Alors, Day One, moi ce que j'en ai ressenti, c'est un gros parallèle avec les aventuriers du rail, mais en inutilement plus complexe. Il y a un système de prise, des contraintes d'adjacence. Sur le papier, ça structure, en pratique, ça m'a laissé complètement froid. J'ai jamais vraiment senti que les contraintes apportaient quelque chose de fort ou tendu au jeu. On est clairement sur une course. Ne pas perdre de temps, optimiser sur un laps de temps assez court. Il y a un petit micro-moteur qui se met en place avec l'ajout progressif de cartes, ça, pourquoi pas. Mais à côté de ça, le fait de piocher une carte un peu au hasard, juste pour valider une histoire, j'ai trouvé ça bof, voire un peu nul. Ça casse l'optimisation, ça donne un sentiment arbitraire qui n'a pas convaincu. Au final, un ressenti assez quelconque, ni désagréable, ni vraiment marquant. Un jeu qui tourne, mais qui ne m'a pas donné envie d'y retourner.
Mad, tu as pu y jouer également ?
Oui, j'ai fait partie en physique et partie en démat, avec toi d'ailleurs, Caducée. Je rejoins ce que dit Kurt sur les ajouts de règles, les règles qui complexifient la chose. Tu parlais de la règle de l'adjacence quand on prenait dans la rivière. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, c'est vraiment pour avoir une contrainte, mais ce serait intéressant de savoir d'où ça vient, cette contrainte. Mais ce n'est pas la seule micro-règle qu'on peut trouver dans le jeu. Alors, j'en ai listé quelques-unes. Donc, tu le disais, hein, quand on a fini une histoire, on pioche aléatoirement une carte. Bon, ok, pourquoi ? Enfin, peut-être on pouvait la choisir aussi, c'était peut-être plus intéressant. Donc le principe du jeu, hein, tu l'as rappelé rapidement, on dépense des cartes pour se déplacer sur une map, et en fait, il faut dépenser des cartes depuis notre campement de base jusqu'à notre campement d'arrivée, et c'est une carte par type de paysage qu'on va traverser, sauf pour l'eau. Pour l'eau, en fait, avec une seule carte, on peut faire plusieurs cases. Alors moi, j'avais un peu oublié pendant la partie, par exemple, cette petite règle. Peut s'expliquer, parce qu'effectivement, si t'es dans le courant de l'eau, bah voilà, tu vas peut-être avancer plus vite. Bon, voilà, donc encore une petite règle. Pour pouvoir compléter les objectifs, il faut être sur des zones différentes, mais faut pas que ce soit la même. C'est-à-dire que ta petite maison, ton petit campement, s'il est sur des rochers, il faut qu'il soit sur d'autres rochers d'une autre zone pour pouvoir compter comme objectif. Donc ça, c'est pareil, j'avais oublié cette règle à un moment donné. Je dis, mais pourquoi ça valide pas le lieu que j'ai atteint ? Parce que bah justement, ça doit être des zones différentes, ce qui t'oblige à t'étendre, ce qui n'est pas si mal en même temps. Et en même temps, tu as une autre contrainte, les maisons, si elles sont par deux, elles font un petit village, et ça va scorer aussi des points, et des points plutôt intéressants, parce que c'est 4 points quand tu as deux maisons qui sont côte à côte. Donc le jeu a différentes contraintes qui t'obligent à jouer différemment et à jouer à l'opposé. Ça, à la limite, c'est intéressant d'avoir des contraintes. Ça ne va pas dans mon champ des micro-règles. Pareil, l'adjacence à l'eau, ça compte que pour une zone. Donc, parfois, on se retrouve à devoir faire des objectifs, sauf que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a que deux rivières et il faut 3 adjacences à l'eau. Du coup, certains objectifs ne sont possibles qu'avec les cartes que l'on va glisser sous notre plateau individuel. Donc ça, c'est pareil, je l'avais un peu oublié. J'avais juste considéré les symboles qui étaient sur les cartes et pas tant les... Alors après, c'est peut-être de ma faute, hein, j'ai peut-être une mémoire qui a des trous. Mais je trouvais que ça faisait beaucoup de petites choses à se souvenir qui alourdissent en fait le jeu à un moment où un jeu comme Rebirth défonce tout en fait. Parce que quand tu regardes un peu la com... qui est faite autour de jeu, c'est assez simple. Il n'y a que 2 actions, soit tu prends 2 cartes, soit tu poses un campement. Oui, certes, mais tu as quand même tout un tas de petites choses à te rappeler. Pareil, il y a la course au feu, là, au feu de camp, qui fait que, à un moment donné, il faut quand même regarder ce que font les autres. Et j'avais oublié aussi que quand tu validais ta dernière histoire, ça te faisait aussi un feu de camp. Donc à un moment donné, Caducée, t'es passé devant sur les feux, j'ai pas compris d'où ça venait, quoi.
C'est quand tu poses ta dernière hutte, ouais.
C'est ça.
C'est pas sur la dernière histoire, c'est quand tu déclenches la fin de partie, en fait, où effectivement, t'as un feu bonus.
C'est ça. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi tu t'as un feu en plus ou d'un coup? Bref, il y a plein de petites choses que j'ai pas gardées en tête tout du long pour un jeu qui se dit, simple, accessible. Ok, c'est pas non plus insurmontable. Hein. Et puis, tu nous as réexpliqué la règle, ça a été vite. Mais voilà, je trouve que ça alourdit un peu l'expérience de jeu.
Je suis assez d'accord avec la comparaison que tu fais avec Rebirth. Hein. Effectivement, j'y avais pas forcément pensé en préparant tout ça, mais la comparaison avec Rebirth est difficile pour le coup. C'est vrai que si tu mets en parallèle la simplicité annoncée des deux jeux et le rendu en jeu, effectivement, Rebirth est largement au-dessus. L'aspect course, vous l'avez signalé tous les deux, moi, c'est vraiment ce qui transparaît le plus au niveau des sensations dans toutes les parties que j'ai pu faire. Et je crois que c'est sur ce point-là que le jeu me semble de plus en plus agréable après avoir fait plusieurs parties. J'ai pas trop accroché sur mes parties de découverte. Ça se déroulait tranquillement, c'était pas déplaisant non plus. Ça réveillait pas en moi des sensations folles et ça rappelait effectivement d'un côté un peu les aventuriers du rail à cause des fameuses cartes qu'on peut en plus cumuler en main et choisir, parce qu'il n'y a pas de limite de main, choisir éventuellement de les jouer un petit peu à retardement, peut-être des fois par rapport aux autres, mais avec un gros paquet de cartes et une possibilité d'action un peu plus importante. Mais j'ai l'impression actuellement de le trouver plus plaisant qu'au début à cause de cet aspect course et de le trouver d'ailleurs plus plaisant même à deux parce que il y a ce côté, tu parles de la course au feu, il y a aussi la nécessité quand même de regarder ce que font les autres parce que tu peux être un petit peu bloquant sur certains terrains en fonction de ce qui manque à tes adversaires pour pouvoir valider leur tuile-histoire parce que ces histoires de tuile-histoire justement elles sont quand même assez décisives en tout cas dans leur choix parce que t'as aucun moyen de les changer en cours de jeu donc t'as intérêt à anticiper un petit peu là-dessus et j'ai l'impression que de ne pas réaliser tes tuiles-histoire c'est un sacré handicap au niveau des points.
Ah oui.
Moi à chaque fois que je me suis prise une déculottée dans mes parties, c'est parce que j'ai pas réussi à valider mes tuiles histoire. Et comme en plus, on a tendance à choisir les suivantes en fonction un peu de la première, en se disant, on a déjà un petit peu axé sur ce type de terrain, sur ce type de ressources.
Oui, sur ce qui est déjà fait, oui.
Exactement, parce que c'est le seul moyen de réussir en quelque sorte à toutes les valider. Si tu t'es un peu planté sur ta première, et t'as été peut-être un peu gourmand en prenant des grosses cartes aussi, c'est possible, tu vas le payer en fait à la fin, clairement, ça peut être hyper punitif. Je reviens sur le choix de cette micro-règle des cartes adjacentes sur la rivière. Je pense, alors il faudrait avoir une confirmation officielle, mais je pense que c'est pour éviter que l'une des joueuses bloque toutes les cartes d'un même type. Parce que si tu as la possibilité de récupérer toutes les cartes montagne qui sont présentes, tu vois, les deux seules cartes montagne qui sont présentes sur ta ligne, tu peux le faire. Et alors que quand tu as cette contrainte d'adjacence, tu vas peut-être en prendre qu'une seule et prendre une autre carte à côté qui va en quelque sorte être imposée. Mais je pense que clairement, c'est pour éviter le blocage d'une joueuse par rapport à ce que souhaiterait faire l'autre. En tout cas, c'est la seule explication, on va dire, logique que j'y vois. Et j'ai pas essayé, par contre, le mode en équipe. Je sais pas si vous avez essayé les scénarios ou pas.
Non. D'ailleurs, c'est pas le seul jeu ce soir dont on va parler qui propose comme ça d'autres variantes et des évolutions.
Oui.
Si tu permets, je voudrais revenir sur ce que tu disais par rapport au fait de prendre plein de cartes terrain, un peu comme les stratégies. Là, on en avait parlé des champions, des aventuriers du rail qui passent des heures à piocher leurs cartes avant de commencer à poser le moindre wagon.
Et qui déroulent tout à la fin.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, je pense qu'il y a un équilibre qu'il faut trouver parce que si tu tardes trop à poser tes campements, et notamment si tu veux les poser suffisamment loin pour pouvoir avoir des territoires différents hein, pour scorer tes lieux là, en fait il y a un équilibre à trouver quand même. C'est-à-dire que si tu tardes trop, les places seront prises. Si tu vas trop tôt, tu vas être un peu trop près de ton campement de base et ça va perdre du temps pour après aller plus loin parce que quand même les 4 points des villages c'est des points qui sont intéressants à aller chercher et d'ailleurs certains symboles ils sont pas tous près de ta cabane de départ quoi donc il faut vraiment s'étendre. Ça je trouve pas ça inintéressant. Et après notre partie, on avait justement parlé du fait que le territoire était assez petit et qu'on se bloquait facilement. Je pense quand même que c'est l'un des intérêts du jeu. Si on prend un peu le lore du jeu, on est une peuplade là qui doit s'étendre parce qu'il y a une pénurie de ressources. Ben finalement, cette histoire de pénurie de place et puis compétition avec d'autres tribus, premier arrivé, premier servi. Alors bon, idéologiquement, ce serait intéressant de s'arrêter une seconde sur cette idée. Peut-être qu'il vaut mieux coopérer que se tirer dans les pattes. Je ferme la parenthèse. Mais en tous les cas, pour le coup, le rendu du jeu, de cette mécanique-là, d'être coincé, c'est raccord avec ce que raconte, en tous les cas, l'histoire du jeu. Quoi.
J'ai une question pour toi, Matt, qui y a joué en physique
et
en dématérialisé.
Ouais, pas trop compliqué la question, s'il te plaît, hein, parce qu'il est tard et tout ça.
Pas de problème. Autant en dématérialisé, c'est très simple, c'est le jeu qui compte pour toi. Tu sais que tu es dans tant de territoires bleus, tant de territoires verts, tant de territoires jaunes. Tu sais déjà que tu es adjacent à tant de colliers, tant de... C'est compté pour toi, c'est le jeu te facilite la vie. C'est pas pénible en physique.
En fait, j'avais noté ça dans mes notes, j'avais mis « Merci BGA ». Parce que, alors en fait, pour deux raisons, merci BGA. La première, c'est que je suis sûre que j'ai fait des erreurs de règles quand j'ai joué en physique, parce que ces histoires de comptage de points et tout ça, à un moment dans la partie avec Elodie, on se dit « mais pourquoi ça score pas? Qu'est-ce qui se passe ?» Enfin, voilà. Donc je pense qu'il y avait des choses qu'on n'avait pas toujours bien comprises, donc je suis pas certaine d'avoir joué correctement en physique. Et puis la deuxième chose, c'est vrai que c'était hyper confortable de voir et mes valeurs à moi et celles de mes copines, pour voir un petit peu comment, voilà, sur le coup des feux follets, là, enfin des feux de camp, je me dis, bon, bah, je suis peut-être encore un peu dans la course. Ça me paraissait assez lisible. Après, faut reconnaître qu'en physique, l'ergonomie est bien fichue. Enfin, le tableau triple couche avec les cartes et tout ça, je vais pas bouder mon plaisir à manipuler les petites maisons. C'est aussi agréable. Et puis, la lisibilité, elle est assez claire aussi. C'est-à-dire que tu peux, en regardant le plateau de ta voisine, voir un peu quelle stratégie elle fait, sur quel territoire elle s'implante. Donc, si vraiment tu vas être un petit peu coquinou, tu peux aller lui shipper sa carte histoire qui lui ferait de l'œil. C'est pas mon tempérament, mais c'est vrai que BGA, ça nous rend un peu feignasses.
Ah oui. T'as un petit temps, surtout je trouve, avant de choisir tes nouvelles tuiles histoire, où tu vas avoir besoin de refaire le point sur ce qui se passe sur ton plateau, de regarder à côté de combien d'éléments tu es positionné, surtout pour les ressources, parce qu'au final, la couleur des différentes zones géographiques, elle est assez discriminante. Par contre, pour les ressources, c'est vrai que t'as besoin d'y regarder d'un petit peu plus près, et t'as ce petit temps qui est quand même raccourci quand tu le fais sur BGA, qui est pas désagréable, mais au final, il y a quand même une ergonomie. Et puis, je te rejoins sur le plateau double couche. Moi, ce que j'ai préféré, c'est de pouvoir glisser ma carte en dessous et qu'elle bute vraiment à mi-chemin de la carte. Ça, c'est assez chouette. Un petit mot juste sur les scénarios. C'est plutôt sympa, en fait. Ça change la façon de réfléchir avec des systèmes de scoring qui sont aussi modifiés. Il n'y a pas que des petits points de règles qui varient. Et donc, ça te challenge un petit peu différemment.
Puis, tu peux jouer avec les éléments. Moi, j'ai cru comprendre que, justement, un volcan qui va entrer en éruption, bah, peut-être ça va te couper une zone en deux. Tu avais deux maisons dans une même zone et tu te retrouves avec deux zones différentes. Et du coup, ça t'arrange un peu.
Exactement. Ça peut autant embêter les autres que t'arranger toi, en fait. C'est pas mal. Et puis, il y a l'histoire des villages lacustres aussi, qui te fait réfléchir différemment, qui est sympa aussi. Oui, au niveau inspiration, je sais pas si je l'avais dit, mais il y a probablement Kingdom Builder aussi, qui a dû inspirer un petit peu, je pense. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter pour D1.
Non, je voudrais juste, si tu me permets, lire un petit mot que nous avait noté Elodie. Elle dit « Le jeu est souvent comparé à Splendor ou aux Aventuriers du Rail. Il n'y a pas de raison à ça. Dans 10 ans, D1, on l'aura oublié. »
Elle dit ça, Elodie. Ah bah dis donc.
Je pense que le timing de sortie avec la comparaison à Rebirth est encore plus pénalisante, je pense, peut-être pour D1. C'est possible. Pour le jeu suivant, il vous faudra un peu d'échauffement des doigts et des poignets. Yubi, en japonais, désigne un doigt ou un orteil, et Bo, un bâton. Mais c'est bien de vos mains qu'il est question dans Yubibo, un jeu d'adresse dans lequel vous allez devoir maintenir de façon collective des bâtons qui seront systématiquement placés entre deux doigts appartenant à des mains de joueuses différentes, doigts qui seront imposés par des cartes. La structure collective se complexifie avec l'avancement des tours, et pour gagner, il vous faudra maintenir un nombre de bâtons qui dépend du nombre de joueuses. Voilà pour le concept général, je vais essayer de vous en dire un petit peu plus. On fait un retour vers les jeux d'adresse ou de dextérité. On avait parlé du chat et la tour la dernière fois. On est sur un créneau un petit peu différent et un peu plus rare au niveau des jeux de société, puisqu'il n'y a pas du tout d'empilement. C'est une sorte de air twister coopératif compact. On va construire une structure commune faite avec nos mains, enfin une de nos mains, en y plaçant donc des petits bâtons qu'il faudra réussir à maintenir tout le temps de la partie sans les laisser partir, et donc jouer en fait avec la tension, les forces qui vont s'opposer dans nos mains, sachant que l'une de nos mains peut être reliée à des joueuses différentes, et donc trouver le bon point d'équilibre au fur et à mesure de la complexification de cette structure. Ça rend les choses un petit peu compliquées. Il y a deux modes de jeu avec une variante extrême pour ceux qui recherchent encore plus de défis et la possibilité de poser des sortes de petites balles en mousse extrêmement légères. Pour ma part, j'ai pas essayé avec les balles, les baguettes à plusieurs, ça me semblait déjà assez complexe. Il y a un mode à deux joueuses qui est à mon sens beaucoup plus simple, dans le sens où on ne gère la tension qu'avec une seule personne. Alors il y a une petite variante qui vient avec le jeu à deux. Les doigts qu'on choisit sont imposés des deux côtés, pas uniquement pour l'une des deux joueuses comme dans le mode normal. Mais comme on a besoin de gérer la tension uniquement à deux et pas à plusieurs, ça rend les choses plus faciles. Et c'est vrai que autant j'ai réussi à deux joueuses, autant à plusieurs, on n'a vraiment pas réussi à maintenir la structure, on va pas dire debout, puisque c'est pas debout, mais on va dire en place, en l'air. Une chose que j'ai notée aussi, c'est que si vous vous amusez à regarder les copains jouer, ben vous verrez que ça se joue apparemment avec les doigts, mais aussi avec la face, parce que c'est un peu le défilé des mimiques entre ceux qui se concentrent, ceux qui vont sortir un petit bout de langue. Enfin, c'est assez rigolo à regarder. Moi, je l'ai considéré vraiment comme un jeu concept. C'est vrai que si tout le monde ne joue pas le jeu, c'est cuit. J'en ferai pas des parties à répétition. On va le découvrir, se challenger un peu. On passe à autre chose, mais on a passé un bon moment. Il me semble suffisamment original dans le panel, en fait, des jeux d'adresse pour être ressorti régulièrement à qui veut bien se prêter au jeu. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé de votre côté, je vous laisse la parole.
En t'écoutant parler, je me dis qu'il faudrait associer Yubibo avec le jeu de photos de Cocktail Game. Là, c'était quoi ? C'était Safari Photo, là, où il fallait prendre des photos des gens avec leur mimique. Ouais, je sais plus, ça pourrait être marrant du coup. Ça ferait un petit album souvenir. Bon, alors, ce jeu, bon, c'est pas ma cam, vraiment, c'est pas mon truc, mais c'est pas grave, j'ai l'esprit ouvert, je suis prête à faire des expériences ludiques. J'y serais pas allée si on n'avait pas cette émission à faire, donc je me suis procuré le jeu et je me suis dit, bon, je vais déjà y jouer avec ma fille, qui a eu la bonne idée de se blesser à la main dans les heures qui ont suivi. Voilà, plus de joueuse sous la main, c'est le cas de le dire. Donc je me suis dit, je vais la porter à mon travail. Et alors là, je ne remercie pas le jeu parce que moi qui avais une aura, vous savez, j'étais celle qui ramenait les jeux super. Des mois à construire cette réputation de sommelière de jeux de qualité, de jeux. Après, on me dit, ah, mais c'est super ton jeu, comment ça, voilà. Ben voilà, donc tout est tombé un petit peu par terre. Alors pas seulement les bâtons et les boules. Donc quand j'ai ouvert la boîte, les gens m'ont dit, ah ouais, regarde, il y a des boules et tout ça, trop bien. Et puis au bout de quelques minutes, j'ai vu dans leur regard, c'était pas des grimaces qu'ils faisaient, c'était de l'incompréhension dans leur regard, en me disant, mais qu'est-ce que tu nous as sorti là? Il y a même une de mes collègues qui m'a dit, c'est pas Yubibo qu'on devrait l'appeler, c'est Kikabu, parce que ça c'est un jeu qu'on joue en ayant un petit coup dans le nez, tout ça. Donc bon, on s'est un peu marré quand même. Voilà, et puis on a regardé la boîte, puis il y avait des trucs un peu rigolos, il y avait, comme ils avaient fait pour Flip Seven, je crois, il y avait des faux avis, et il y avait 9 doigts sur 10 ont aimé le jeu, enfin bon voilà, c'était un peu rigolo, donc on a un peu rigolé avec ça. Alors qu'est-ce qui leur a pas plu? Je crois que ce qu'ils n'ont pas aimé, alors je rappelle qu'on était dans une relation de travail, hein, on était au boulot, c'était peut-être la proximité. La promiscuité entre nous qui s'est créée tout d'un coup. Je crois qu'ils n'étaient pas prêts, donc ça, c'était pas évident. Et puis, ce côté, mais à quoi on est en train de jouer? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors bon, j'avais dit, écoutez, j'ai besoin de vous, voilà, je dois parler de ce jeu, j'y ai pas joué. Bon, en tous les cas, je mets en vente ce jeu. La dernière fois que j'avais dit ça, là, ça y est, j'ai une touche. Je vendais Détective Conseil avec Lovecraft. Là, ça y est, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur Ocaseo. Donc voilà, je vous dis, j'ai un Yubibo à vendre. Je me demande d'ailleurs si ça peut s'émuler avec des Mikado.
Ouais, c'est un peu pointu, les Mikado.
Oui, je sais. Je suis taquine. Je suis d'humeur taquine.
Ce serait pas gentil pour les collègues.
Oui, puis je suis remontée un peu. Je suis remontée contre ce jeu. Bon, voilà, je passe mon tour sur ce jeu, je vais rester au Badaboum finalement.
Rien ne remplacera Badaboum dans ton cœur.
Et le monsieur à moustache.
Et tiens, d'ailleurs, en parlant de monsieur à moustache, Kurtz.
J'ai pas eu la chance d'y jouer, j'en ai discuté un peu avec Flavien qui lui y a joué, qui l'a apprécié. Il a aimé le côté coopératif du jeu. Par contre, il dit, vous me direz ce que vous en pensez, qu'il y a un risque toxique. Un risque de reporter sur les... Ça s'est cassé la gueule, on sait pas pourquoi. Bah, c'est ta faute. T'as mal mis ton doigt, t'as mal tenu le truc. T'aurais dû faire comme ça.
Oui, c'est peut-être aussi ce qui peut poser problème au sein de, justement, de ton groupe de travail, qui est pas le groupe de potes avec qui tu joues.
Après, je m'entends très bien avec mes collègues, oui.
T'auras peut-être moins tendance à lui dire non, pousse sur ton index, ou enfin, tu vois, des consignes peut-être effectivement qui peuvent sortir de manière un peu directive. Et si tu y joues dans un environnement qui n'est pas détendu, ça peut effectivement être un peu plus difficile en tout cas à faire.
D'ailleurs, je les embrasse, ils nous écoutent. Voilà, je vous adore, vous êtes super, changez pas. Ouais.
Vous y avez joué jusqu'à combien ?
On était 6.
On l'a fait à 5. Je crois que j'ai pas fait 4, j'ai dû faire 3 et 5. Il y a assez peu de différence entre 3 et 5. Il y a toujours cet aspect de devoir gérer des pressions différentes. D'ailleurs, j'en profite, c'est pareil, de jouer avec des groupes hétérogènes en âge et avec des plus petites mains. Ça pose aussi un problème. Entre adultes, on va dire à main à peu près équivalente, c'est plus facile aussi qu'avec des adultes et des enfants. En tout cas, des enfants qui auraient encore de petites mains.
À cause de la taille ou à cause de la force ?
Les deux, parce qu'il y a une histoire de taille et de positionnement de tes doigts pour réussir à parfois les écarter suffisamment pour que ça puisse correspondre à l'ensemble de la structure telle qu'elle est positionnée. Enfin, c'est pas tant la force, c'est plus le ressenti que tu vas avoir et peut-être même la motricité fine que ça demande pour gérer en fait de façon adaptée les différences de pression que tu vas ressentir au fur et à mesure de la partie. Je pense que c'est plus une histoire de motricité fine que de force. T'appuies pas non plus... Enfin, il y a un moment où ça, tu peux cramper un peu. Hein, si tu joues au jeu et que t'es pas assez hydraté, tu peux accuser ta crampe d'avoir fait tomber la structure. Pensez-y, si jamais on vous accuse. Mettez ça sur le coup d'une crampe au doigt. Hein.
D'ailleurs, on attend les photos de Robinocrite.
De la structure et des mimiques.
Et comment on gagne ?
En fait, tu as un nombre défini de bâtons à devoir maintenir dans ta structure en fonction du nombre de joueuses.
Ce jeu me fait un peu penser, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, c'est pas un jeu qui est sorti chez nous encore, c'est un jeu qui s'appelle Giants Moving Tiny Furniture. C'est un jeu où deux personnes doivent, avec les auriculaires par exemple, déplacer un canapé minuscule d'un point de la pièce à l'autre, et ce plusieurs fois pour aller le plus vite possible. Non, ça vous dit rien ?
Rien du tout. Bah, écoute, on se rencardera et puis je mettrai le lien du jeu dans le billet. Est-ce qu'on passe à la suite, messieurs, dames ? On poursuit avec Butterfly Effect, qui est le nom d'une nouvelle gamme de jeux d'aventure narrative coopérative. Deux opus sont actuellement disponibles. La mécanique générale utilise des cartes, un livret de scénario, un plateau de jauge et ses curseurs, ainsi qu'un lot de jetons pour nous permettre d'explorer un univers aux multiples embranchements et conclusions. Le battement d'aile d'un papillon dans la boîte peut-il provoquer une tornade dans nos cœurs ? Mad, je te laisse avec cette question.
Butterfly Effect, c'est un jeu qui est sorti chez la boîte de jeux, qui a son actif déjà des jeux narratifs, puisque c'est eux qui ont sorti Backstories, trois opus à ce jour. On avait d'ailleurs parlé il y a tout juste un an d'un des Backstories. Donc un genre de jeu avec des embranchements où on doit faire des choix en fonction des situations, on récupère des items, tout ça, on connaît un petit peu l'ambiance, enfin on voit dans quel genre de jeu on se situe. Alors petit fun fact, le scénario de la troisième boîte de Backstories qui s'appelle L'Embrasement en fait a été écrit par l'auteur de Butterfly Effect qui s'appelle Quentin Guidotti. Voilà, donc on est dans cette gamme là. J'ai lu le livret de règles et il y a un avant-propos de l'auteur que j'ai trouvé assez touchant. Il m'a un peu cueilli, il parle un peu de son goût pour ce type de jeu, il parle des livres dont vous êtes le héros, le fait de prendre des décisions sans connaître les issues, voilà ce que ça provoque chez lui. Avant même, je connaissais pas le jeu du tout. Hein. Je l'ai découvert en achetant la boîte et puis en ouvrant le livret de règles. Et je me suis dit, tiens, ça me parle, parce que moi aussi, j'ai grandi avec les livres dont vous êtes le héros, dont on n'arrive jamais à la fin et on se décourage. Et pourtant, on aime ça, on y retourne. Les BD, là, avec pour les enfants, j'ai parlé la dernière fois dans une émission de Hocus Pocus que j'adore et qui, voilà. Donc vraiment, j'étais bien dans le délire, là. Et donc, j'avais pas percuté qu'il y avait deux boîtes. J'ai pris un peu random et j'ai acheté la boîte de Alter Ego. Et là, c'est pareil, ça me parle parce que les super-héros, moi, j'ai grandi avec Strange et les X-Men. Et moi, ce que j'aimais, c'était le fait d'avoir plein de pouvoirs différents, le quotidien des super-héros. C'était pas tant Superman, il m'intéressait pas trop. Je préférais des gens qui découvraient leurs pouvoirs, qui savaient pas trop comment les gérer. Je sais pas si vous connaissez aussi HeroCorp avec Simon Astier, avec des super-héros qui ont des pouvoirs mais tellement précaires, le Capitaine Shampoing là, ou celui qui se raidit quand il ment, et ça, bah, ça moi j'adore, en fait le précaire, j'avoue j'aime beaucoup, donc ça y est je suis à fond là, j'ai envie, je suis prête, c'est pour moi. Et puis en ce moment en plus je suis hypée par un jeu qui s'appelle Dispatch, et j'ai vu que Flavien le connaissait, alors il en a fait une critique pas très élogieuse, mais moi la bande-annonce que j'en ai vue, ça me hype aussi pas mal, avec des super-héros, enfin des super-vilains qui, un petit peu comme quand on appelle les urgences, se retrouvent, quand on a une difficulté, on appelle les urgences, et puis là, il y a un dispatcher qui, en fonction de la gravité, va envoyer une équipe, tout ça. Là, c'est un peu l'idée avec des super-héros, mais des super-vilains, et puis, bref, autant vous dire que Mad, elle était à fond. Et puis, bah, voilà quoi. Voilà, on se retrouve dans un jeu avec une boucle temporelle. Alors déjà, moi, les boucles temporelles, je trouve que c'est difficile à gérer. J'ai réécouté le pour et le contre de Time Stories qui a été fait par Proxy Jeu avec le regretté Twin et Paul Gara et puis Cyrus. Et en fait, on retrouve les défauts en fait de ça. C'est-à-dire et que la gestion, elle est pénible. Il y a une belle promesse. En fait, je suis déçue de pas être suffisamment rigoureuse, de pas être suffisamment courageuse aussi, parce que je vois tout le boulot qu'il y a derrière et toutes les embranchements, tout ce qui a été réfléchi, mais moi j'ai pas le courage de ça en fait. Alors j'y ai joué seule, hein. Et en fait, alors que je voulais dire, j'ai fait une longue introduction, j'étais vraiment à fond sur le truc, j'étais contente en plus de la thématique, même si Flavien serait là, il le dirait, des super-héros, bon voilà, c'est quand même pas nouveau, ça fait des années que ça dure, même les super-héros qui sont un peu décalés, tout ça, enfin c'est vraiment pas nouveau, je suis d'accord avec lui, mais j'étais prête, enfin voilà, j'avais envie. Donc là, la lourdeur me perd en fait. Alors j'ai fait plusieurs runs, hein, j'ai fait plusieurs fin, il y a des petites surprises en plus, il y a des trucs un peu rigolos, il y a des clins d'œil. À un moment donné, j'ai fini employé de l'année. Donc c'est rigolo en fait, et puis tu sens que ça a été bossé avec cœur quoi, mais j'y arrive pas. Et finalement, je préfère un Life is Strange, un jeu vidéo qui va gérer tout ce côté barbant, qui va me mettre de la musique en plus, qui va me raconter l'histoire. Voilà, donc c'est la Mad paresseuse, bah, qui ça a pas trop plu quoi.
Kurt, tu as joué ?
J'y ai pas joué, mais d'après ce que j'entends, ça m'a hurlé Time Stories. Et ça me surprend pas dans le parallèle que t'en fais. Pour moi, je pense que c'est très proche. J'ai quand même l'impression, d'après les retours que j'ai vus à droite à gauche, que c'est relativement bien écrit. Apparemment, celui-là serait quand même dans le haut du panier.
Ouais, j'ai du mal à juger les écritures. Par contre, ce que je vois, c'est que l'auteur, il a creusé des pistes, quoi. Des fois, tu pars sur des trucs vraiment qui n'ont rien à voir. À un moment donné, ça va être une histoire d'amour. À un moment donné, il va être dans la révolte. Je l'apprécie pas à sa juste valeur, en fait.
Encore une fois, c'est difficile de toucher à ce type de jeu sans le mettre en parallèle avec ce que peut proposer le jeu vidéo. Moi, j'ai peur que les contraintes imposées par notre média jeu de société, elle soit quand même très difficile à gommer. Pour ma part, j'ai fait les deux opus. J'avais commencé par le manoir parce que le thème, en fait, me parlait plus. Derrière la boîte, d'ailleurs, c'est marqué en bas dans le thème manoir hanté et mystère. Donc, je me suis dit cool. J'y allais un petit peu Alors, pas à reculons, mais il y a toujours ce côté, comment va être la narration? Est-ce que je vais réussir à rentrer dans l'histoire? J'ai au final largement préféré cette expérience au dernier jeu d'aventure narrative que j'avais joué. Backstories, on en avait parlé. Fed Flip, que j'ai pu faire aussi. La plongée immersive, elle se retrouve quand même bloquée par cette manipulation dont tu parles aussi. Les lieux qu'on ouvre, qu'on ferme, qu'on réouvre. Et ça rompt le rythme narratif. Mais en parallèle de ça, rejoint Flavien qui disait que la narration, elle est quand même intéressante. Moi, je la trouve pas trop lourde, pas trop longue, et elle est surtout adaptée à chacun des univers proposés. Parce que pour avoir fait les deux opus, c'est pas tout à fait le même type de narration. Elle est systématiquement adaptée à l'univers qui est proposé. Et ça, j'ai apprécié.
Oui, c'est pas plaqué.
Non, il y a vraiment une volonté d'adapter cette narration et l'ambiance à l'univers qui est proposé, et ça, c'est chouette. Il y a un petit peu d'humour, mais sans que ce soit lourd aussi. Je repense à Backstories, je crois que j'avais dit que je m'étais retrouvée un peu le cul entre deux chaises parce que je savais pas comment le prendre, ce jeu. Je savais pas s'il fallait le prendre sur un point humoristique et ou s'il fallait le prendre sur l'enquête. Et au final, ça m'avait complètement bloqué sur la réalisation de ma partie. Là, en fait, ça arrive au moment où ça doit arriver et ça fait sens. Effectivement, la narration est largement au-dessus que ce que j'ai pu avoir dans mes dernières expériences sur ce type de jeu-là. Par rapport aux manipulations, on a essayé de réfléchir un peu à ça à la maison. Au final, peut-être que la règle pourrait proposer une sorte de mise en place alternative, mais ça demande à avoir de la place. En mettant en fait les piles de lieux ou d'air, parce qu'en fait ce sont des lieux dans le manoir, ce sont des airs dans Alter Ego, en les mettant en colonne et en ouvrant en fait les lignes dès que le lieu ou l'air est débloqué. Ensuite, tu la laisses en place une fois sortie du lieu en retournant seulement les cartes, seulement tu les flippes. Et ça éviterait peut-être déjà d'avoir à les dépiler et les rempiler à chaque fois. Ça va limiter un petit peu la manipulation. Donc, à voir. Voilà, si jamais vous écoutez cet épisode, que vous n'y avez pas encore joué, vous savez d'avance que les manipulations dans ce type de jeu, ça peut être un frein, peut-être essayez ça. Vous nous direz si ça facilite un petit peu les choses. Parce qu'au final, en fait, un scénario, c'est pas très long. Si tu retires toute la partie manipulation, il reste pas grand-chose. En fait, si tu devais faire un portage en jeu vidéo qui t'enlève toute cette manip, je crois que ça prendrait pas bien longtemps pour arriver à une des fins possibles.
Tout à fait. Là, le parallèle avec Time Stories, il prend fin un peu ici. C'est-à-dire que, oui, on retrouve la même vibe. D'après ce que tu dis, Caducé, ça s'adapte aussi à l'univers. Il y a des adaptations. Oui. Parce que dans Time Stories, ils ont vraiment exploré toutes les pistes, toutes les façons de faire. Donc, il va y avoir de ça aussi, je sens, dans cette gamme. Par contre, la grande différence, c'est ça. C'est que c'est moins long. Oui. Kurt, tu disais, voilà, t'as Time Stories qui clignote. Pour les gens qui avaient été refroidis par Time Stories, par cette longueur, et puis cette... Là, on est sur un temps de partie qui est quand même plus court. J'ai été surprise parce que moi, le premier run que j'ai fait, enfin la première partie, la première fin que j'ai eue, peut-être j'ai joué une demi-heure. Ouais. Allez, 40 minutes à tout casser, alors que sur la boîte, c'était annoncé facilement une heure.
Oui, c'est ça, c'est 90 minutes, je crois, sur la boîte.
C'est ça,
ouais.
Plus d'une heure de partie, et je me suis dit, bon, bah, j'ai vraiment... Après, je trouve que les choix que tu fais sont assez contraints, finalement, parce que tu sens bien que te barrer à la première carte, dire non, finalement, je fais pas l'aventure, c'est pas le bon move. Tu vois, tu le sais,
tu le sens. Ouais, ouais.
Donc tu y vas pas. Et puis c'est pareil, le coût des actions, t'as un nombre d'actions limité par R. Bon, bah si t'en as que deux, de toute façon, tu vas pas pouvoir faire plus. Ou alors c'est cadenassé, tu peux pas y aller. Mmh. Donc finalement, t'es un peu guidé quand même. Je trouve que c'est pas si open que ça.
Tu l'es moins dans le manoir. Tu as un jeton d'action illimité. Donc il n'y a pas ce décompte d'action quand tu ouvres tes lieux.
Ce que j'avais envie de dire, t'es bien mignon, tu choisis, mais en fait, tu choisis pas trop, quoi, surtout les premiers tours.
C'est un peu plus open de ce point de vue-là sur le manoir. Un bon point aussi, alors ça c'est une histoire d'édition, mais il faut le noter, il y a les repères de chapitres, les repères de numéros de chapitres qui sont marqués en bas des pages du livret scénario. Alors merci pour ça, parce que ça évite de se spoiler pour les personnes qui n'arrivent pas à ne pas lire. Moi je sais que j'ai les yeux qui flashent de partout en fait quand je tourne une page, je peux pas m'en empêcher, et ça évite quand même beaucoup de spoiler. C'est un point qu'il faut relever. Par contre, Alors, j'avais discuté de tout ça déjà avec Elodie. Elodie avait fait le manoir également, par choix d'univers. Elle s'attendait à trouver d'ailleurs une ambiance à la The Craft, qui est un de ses films fétiches. Moi, tout ce qui est aussi maison hantée, sorcellerie, tout ça, ça m'attire plus de base que le super-héros. On tenait, donc je parle aussi au nom d'Elodie, on tenait à faire une sorte de warning par rapport à l'âge annoncé sur la boîte. Alter Ego et Le Manoir sont marqués tous les deux à 12 ans et plus. Ça ne nous semble pas adapté en premier lieu pour le Manoir au vu des sujets abordés qu'on se prend un petit peu en pleine poire et qui pourraient, si vous y jouez avec des enfants de 12 ans, il y a un moment où vous allez devoir leur expliquer des choses que vous n'avez peut-être pas envie de leur expliquer au moment d'un jeu. Voilà, on va pas spoiler parce que forcément c'est un jeu à spoil encore plus, en fait, je pense, dans Le Manoir que dans Alter Ego. C'est difficile de mettre, par exemple, des mots-clés qui alerteraient sur le contenu ou les sujets abordés. Peut-être qu'il faudrait songer à remonter la limite d'âge. Concernant Alter Ego, moi, c'est plus une histoire de, on va dire, de consommation, sans qu'il y ait rien de choquant. Enfin, on va dire que la violence qu'on va retrouver, elle est attendue dans le sens où, voilà, c'est une histoire de super-héros. On se doute bien qu'il va pas broder pendant tout le jeu, quoi. Mais principalement pour Le Manoir, voilà, ne le faites peut-être pas comme avait prévu de le faire initialement Elodie avec sa petite nièce de 12 ans qui adore les Unlock. Elle l'a pas fait avec elle et elle en était bien contente parce qu'elle se serait retrouvée dans une situation probablement un petit peu inconfortable. Voilà, nous on l'a fait entre adultes, donc ça a pas posé de soucis, mais c'est vrai que quand tu le rapportes à la limite de 12 ans, ça peut sembler un petit peu juste, donc faites attention à ça quand même.
T'as ressenti ça toi aussi, Matt, sur ta boîte?
Non, les super-héros, bah voilà, il y a des morts de super-héros et tout ça, enfin ça bastonne quoi. Puis le gars, s'il fait une boucle temporelle, c'est parce qu'il survit pas, hein.
D'accord, mais rien d'inadapté.
Bon, je l'ai pas fait non plus avec cette idée-là, donc non, rien. Moi, y a rien qui m'a choqué. Il y a Donald Trump. Bon, voilà.
Ah, ça c'est horrible.
C'est choquant. Oui.
Non, c'est plus une histoire de consommation toxique qui est un petit peu banalisée, mais voilà. On peut pas comparer des sujets qui amèneraient des trigger warnings, mais on se le prend peut-être un peu moins dans la tronche dans Alter Ego que ce que provoque Le Manoir. En tout cas, c'est difficile d'en dire plus sans spoil là dans l'immédiat. Je voulais dire qu'au final, j'avais quand même été prise dans l'histoire, plus dans celle du manoir que celle d'Alter Ego, ce qui était déjà en fait un énorme point positif, mais je pense qu'il faut reconnaître en tout cas pour l'instant l'infériorité du média pour ce type d'aventure avec ce qui nous est proposé, quoi. Voilà. On enchaîne avec The Dark Quarter, un jeu annoncé comme une expérience narrative coopérative portée par une application et qui nous embarque dans un univers plutôt sombre à la Nouvelle-Orléans. La boîte de base propose une campagne en plusieurs scénarios comportant 4 personnages et la mécanique générale s'inspire largement de Destiny's mais en coopération. On n'a pas pu tous et toutes jouer à Dark Quarter, mais si vous connaissez un petit peu le système qui était déjà en place dans Destiny's, je vous laisserai intervenir après. Pour ma part, j'ai fait la campagne proposée donc par la boîte de base en entier. On l'a fait à 2 joueuses en prenant un perso chacune. D'une manière générale, j'aime pas qu'on ait 2 personnages à gérer quand je joue à un jeu narratif parce que je m'y perds en fait dans mes persos. J'étais assez impatiente de me lancer dans l'expérience parce qu'il y avait cette promesse d'ambiance sombre, un peu poisseuse, une touche de mystique, de l'enquête et des meurtres. Hein. Comme je l'ai dit, pour le manoir, c'est une ambiance qui me convenait bien. Et je l'imaginais un peu comme la réunion de Destiny et de Chronicle of Crime, qui ont certes chacun leurs défauts, mais pas que. Contrairement à Destiny's, dont les lieux se révélaient au fur et à mesure de notre progression sur la carte, on a ici un grand plateau central et des cartes qui vont permettre de zoomer au sein du lieu sur lequel on sera positionné pour agir. Il y a également pas mal de figurines et de jetons pour représenter les personnages non-joueurs. Et concernant la mécanique générale, elle est extrêmement proche de Destiny's. Chacune a son plateau personnel avec 4 lignes d'attributs, donc c'est le talent, le combat, l'ésotérisme, le charisme, que vous allez maîtriser plus ou moins au début départ selon votre personnage et que vous aurez l'occasion de modifier, d'améliorer au cours de vos parties. Les réussites ou les échecs des situations qui vont être présentées dans l'application, elles vont être gérées par nos lancers de dés, rapportées à la maîtrise de l'attribut qui sera engagé. Et on a toujours, comme dans Destinies, les deux dés principaux et le système de dés d'effort qu'on peut épuiser pour se donner plus de chances de réussite. Et donc, comme c'est un jeu hybride, ce avec quoi je n'ai absolument aucun problème, je vais commencer juste par un point sur l'application. Il y a un système de sauvegarde qui est très bien fait, ce qui n'était pas le cas dans Destinies, qui nous permet de rentrer tous les objets qu'on a, à quel niveau on a nos petits cubes qui gèrent nos attributs. Ça, c'est super chouette parce que si t'as pas la chance d'avoir la possibilité de laisser le jeu en place entre deux scénars, tu peux le remettre en place en étant guidé par l'application. Donc ça, c'est de ce point de vue-là très bien. C'est une belle amélioration. J'ai utilisé la version française. On jouait donc à deux et on lisait nos textes à voix haute. C'est d'ailleurs recommandé dans les règles du jeu, je crois. Vu que c'est de toute façon en coopération, tout est open. Et on s'est retrouvé avec certaines parties qui étaient quand même en anglais. Donc même si on est tous les deux à l'aise en anglais, faire le switch à voix haute, ça a un peu cassé l'ambiance. Sachant que bon, moi je suis quand même bien meilleur en anglais dans ma tête qu'à l'oral. Donc ça m'aurait probablement pas posé de soucis en solo, en fait, en lisant dans ma tête. Mais là, c'était dommage, surtout pour une appli qui était considérée comme traduite et prête peu de temps après la sortie du jeu. Après, peut-être qu'entre-temps, il y a eu des corrections avec l'ensemble des retours de joueuses en France. Il est probable que ça ait pu être corrigé. C'est peut-être un défaut qui n'en est plus un. L'appli, elle est extrêmement présente, au point d'avoir envie, en fait, de s'affranchir des manipulations sur le plateau qui sont inutiles, sauf pour se souvenir de l'endroit où on se trouve. Pour mes parties, nos personnages, en plus, ils revenaient systématiquement dans le lieu de l'agence de départ, parce qu'on fait tous partie de la même agence, et il fallait à chaque fois resélectionner le lieu où on voulait aller, qui était en fait techniquement le lieu où on était au tour précédent, donc on n'avait pas de raison de bouger, et ça c'était vraiment lourdingue, et c'est un défaut qui n'était d'ailleurs pas présent dans Destinies. Peut-être qu'entre-temps, ça a aussi été corrigé, j'ai pas refait le jeu de base, j'ai les extensions et les autres scénarios que je ferai probablement un jour, peut-être que ça a été corrigé entre-temps. En fait, moi j'ai rapidement senti l'inutilité du support plateau central, par conséquence l'inutilité des figurines, des tokens des personnages non joueurs, qui auraient pu normalement être un support immersif, mais qui viennent en fait casser le rythme de jeu. J'en profite d'ailleurs parce que j'ai une petite pensée émue pour l'artiste peintre de la maison, qui était tout heureux de révéler la belle figurine du baron Samedi sur le plateau, qui dominait nos personnages de son regard sévère, nappé de volutes étincelantes de lumière mystique, qui a, j'en suis certaine, tout donné pendant ces 5 minutes d'intervention. Par ailleurs, l'ambiance sonore est quand même plutôt bien gérée. Ça aide aussi à l'immersion, même si elle est un petit peu répétitive. Et côté atmosphère générale, les persos ont un background qui est bien différent, avec leurs secrets, leurs caractères, leurs attributs. Ça s'intègre plutôt parfaitement dans le décor qu'on s'attend à trouver quand on nous propose de se plonger dans un univers sombre et mystique à la Nouvelle-Orléans. Le langage y est cru, les scènes de crime également, donc un point positif sur ce plan-là. Et d'ailleurs, ces personnages, ils ont tous une partie d'histoire personnelle à gérer pour progresser dans l'aventure et qui vient s'intégrer en fait dans le récit principal du scénar. Donc tout ça, c'est plutôt positif. Mais il n'y a pas ou très peu de jeux. Quand on rate un lancer, il y a rarement des sanctions. On attend juste le tour suivant pour retenter sa chance et en fait, ça abaisse la tension qu'on aimerait ressentir, surtout dans cette ambiance. Et au final, j'ai eu la sensation d'avancer pour avancer au fil d'une histoire qui était déjà écrite et dans laquelle mes actes n'avaient que peu d'impact sur la trame principale, ce qui est quand même dommage. Les arcs des histoires personnelles à chacune sont finalement très linéaires. Les boss de fin de scénar ne représente pas de difficultés particulières, ou alors c'est qu'on était vraiment bon, mais ça, je pense pas. Et la scène finale, elle m'a semblé extrêmement répétitive. Le côté coopération, c'est plutôt intéressant. Et à mon sens, c'est un plus pour ce système. Je me rappelle de Destinies. J'avais une frustration énorme, et je pense qu'il y a une frustration énorme pour celles et ceux qui ne faisaient pas partie de l'arc final, qui n'accédaient pas à la phase d'accomplissement, parce qu'on doit accomplir notre destin dans Destiny's, et en fait, donc ça se joue en compétition, et on a des objectifs à réaliser au cours de la partie, et dès que tu as, en fait, dire collecté ce que tu devais collecter, tu te rends dans un lieu pour déclencher, en fait, ta destinée. Et à partir du moment où tu déclenches ça, l'histoire s'arrête pour tout le monde, sauf pour toi. Il n'empêche que c'est hyper frustrant pour les autres joueuses. Tu tombes dans l'oubli, en quelque sorte. C'est fini. Tout ça pour ça, quoi. Cette phase d'accomplissement de destin, elle était frustrante, mais au moins, eh ben, on ressentait quelque chose. Voilà. Ce qui n'est pas le cas dans The Dark Quarter. Et la sensation d'enquête, qui, moi, me motivait énormément, elle est quand même en dessous de celle qu'on ressent dans Chronicle of Crime, si on devait faire la comparaison entre deux jeux hybrides. Donc, bref, il y a un bel emballage, il y a une belle ambiance, il y a des personnages intéressants, une histoire intrigante, mais elle est servie par un système qui, malheureusement, casse l'immersion et sans challenge, quoi. Est-ce que vous avez pu vous rencarder un petit peu sur ce jeu ?
Tu y as joué, toi, Kurt ?
Non, j'y ai pas joué, mais alors, je vais pas te mentir, il y a une raison qui est assez simple. J'en avais déjà parlé, mais j'ai un problème, j'ai un blocage sur tout ce qui est jeu avec application et jeu à campagne.
Là, ça fait beaucoup de raisons de ne pas l'essayer, oui.
Ça fait beaucoup de raisons. Alors après, un jeu à campagne comme Tech Time ou Bomb Buster va pas me poser de problème. Ce genre de jeu m'attire beaucoup moins, tu vois. Donc non. Après, je sais de quoi il s'agit. J'en ai entendu parler quand il est sorti. A-t-il fait l'objet d'un financement participatif ?
Oui.
Il avait fait un peu de bruit autour de ça à l'époque, avec une débauche de figurines de plastique, etc., qui rend heureux les peintres, mais comme tu dis, qui apporte pas grand-chose.
Bah, ce qu'il y a, c'est que il a fait quand même énormément de bruit. Au moment où forcément le financement participatif a été lancé, avec quand même des promesses qui étaient hyper alléchantes, à mon sens surtout par rapport à cette ambiance, et où t'espérais en fait corriger un petit peu les défauts que tu pouvais avoir dans Destiny's ou que certaines personnes pouvaient reprocher à Destiny's. Il y a une petite déception qui est forcément à la hauteur aussi de l'attente que tu pouvais en avoir. Tu vois, et Elodie, qui devait intervenir là ce soir, elle attendait aussi beaucoup du jeu, justement à cause de l'ambiance. Alors elle était plus axée, tu vois, vampire, Nouvelle-Orléans, dans l'ambiance de Anne Rice.
True Blood.
Exactement, Anne Rice, oui. True Blood. Elle nous a expliqué que pour elle, ça avait été zéro émotion. En fait, elle a eu l'impression, comme je le disais, de ne faire que jeter des dés, d'avoir des résultats pourris, de refaire encore et encore la même chose, de ne pas avancer dans l'histoire et puis d'un coup de pouvoir avancer. Bon, en plus, elle y a joué en solo. Alors, peut-être qu'elle aussi, elle aime pas trop jouer en solo. Par contre, je crois qu'elle a pas eu de soucis côté appli. Donc, les défauts que moi j'ai mis en avant au début de ma présentation ont peut-être été corrigés entre temps. Pourtant, j'y ai pas joué directement après la sortie, mais peut-être que le temps que ça remonte, c'est aussi le problème des jeux à appli.
Pourtant, il est vendu pour quoi ? 16+, 18+ ?
Alors, j'ai pas la boîte sous les yeux, mais je crois que c'est du 16 ou 18. C'est peut-être 16 chez nous, 18 ailleurs.
Non, on n'y est pas ou...
Si, si. Parce que c'est cru. Hein. Le langage en particulier, c'est bien fleuri. Hein. Ouais.
Et toi, Mad ?
Moi, j'ai pas joué au jeu. Par contre, j'ai regardé une partie, donc je me suis spoilé le truc. Typiquement, c'est le genre de jeu auquel, il y a peut-être quelques années de ça, vers lequel je serais allée. Et puis, je crois que je suis en train de maigrir. Alors, M apostrophe aigrir. Bon, j'arrête avec mes blagues. Je deviens aigrie parce que, en fait, j'y crois plus trop. Butterfly Effect, j'y suis allée. Et puis, d'autres jeux, on y va. Je me rends compte que je suis souvent déçue. Donc, j'essaye de plus trop avoir d'attente. J'ai joué à tout ce qui était sorti sur Chronicles of Crime, par exemple. Et la boîte Millennium, là, la dernière, en fait, j'ai eu comme une overdose à un moment donné. Les Monty Python diraient, j'ai les dents du fond qui baignent. De trop, en fait.
De système essoré jusqu'au bout, en fait, ouais.
Je parlais de flemme tout à l'heure, mais aussi ce recours à l'application, parce que j'ai vu qu'il y avait des QR codes sur les cartes, il y avait des objets que tu pouvais récupérer, et puis t'interrogeais les gens et tout ça. Et donc, il y a quand même, tu l'as cité hein, d'ailleurs, hein, des liens très forts avec Chronicle of Crime. Et en fait, j'ai envie de retourner à Sherlock Holmes Détective Conseil encore et toujours, quoi. tu vois, de m'installer dans mon canap, de bouquiner le truc, de faire mes théories. Et donc, de la partie que j'ai vue, moi, ce que j'aimais bien par rapport à Chronicle of Crime, c'est que là, t'incarnes vraiment des personnages. Je trouvais que les personnages étaient un peu stylés. Il y avait une vampire et puis un gars qui avait perdu sa femme, là, dans des circonstances tragiques. Voilà, je trouvais qu'ils avaient un peu d'épaisseur quand même, parce que dans Chronicle of Crime, pas du tout, quoi. Et même quand ils avaient fait une tentative avec Welcome to Redview, avec des petits gamins qui avaient des caracs un peu, et puis tu avais aussi des histoires de lancer de dés, tout ça, mais ça marchait pas trop, et puis t'incarnais pas trop le truc. Là, j'ai l'impression que les personnages sont quand même un peu plus stylés, mais tu dis que de toute façon, c'est scripté, quoi. Donc, voilà, un bon Sherlock Holmes, une bonne partie de jeu de rôle, moins de manip, moins d'appli, puis c'est pareil, les applis, jusqu'à quand elles sont maintenues, quoi. Donc, t'as ton gros jeu avec tes grosses figurines et tout ça, et puis peut-être qu'un jour, ça fonctionnera plus. On est toujours un petit peu frileux à la maison sur ce genre de truc, même si on est ouvert aux nouvelles technologies, mais je crois qu'on a été refroidi parce que tu parlais d'espoir déçu. Je préfère en fait finalement me laisser surprendre par un truc. J'arrête d'avoir des attentes en fait.
Je pense que je suis pas encore assez aigrie parce que malgré tout ce que j'ai pu dire sur Backstories, tu vois, de savoir que c'est Quentin Guidotti qui a fait le scénario du troisième, j'ai un petit quelque chose en moi qui me dit « Oh, j'ai envie d'essayer, tu vois ?»
T'as envie d'y aller. Non, mais on sait. On est entre nous, on sait tout ça. Hein. Puis la ludomaniaquerie, on connaît. Donc, personne ne jugera personne ici.
Voilà, on ne se jugera pas. Est-ce que je romps mes habitudes et est-ce à moi, aujourd'hui, de proposer une recommandation jeu vidéo ?
Oui, vas-y.
Alors, je ne doute pas que tu le connaisses, Mad. C'est le premier opus de Gabriel Knight. Est-ce que tu y as joué ? Parce que t'as dû jouer celui qui se passe en France, de Gabriel Knight.
Ah non, rien du tout.
Est-ce que tu nous rajeunirais là un petit peu ?
Un petit peu, ouais. Alors, j'ai pas regardé quand c'était sorti, mais ça fait un bout de temps. Entre-temps, il y a eu un remake, je crois.
Le premier Gabriel Knight, c'est 93 quand même.
Voilà, Sins of the Father, qui se passe justement à la Nouvelle-Orléans, avec tout ce que vous voulez de vaudou. La gamme Gabriel Knight a un fond narratif hyper solide et documenté, donc n'hésitez pas. Pour une fois, écoute, c'est moi qui sors la reco jeux vidéo.
Avec plaisir. Tu reparles d'ambiance un peu noire et tout ça. Le meilleur Chronicle of Crime, si je peux du coup faire une reco dans la reco, là. Je dis que j'en ai un peu assez de Chronicle of Crime, mais il y a quand même une partie que j'avais vraiment beaucoup aimée, c'est l'extension noire.
Noire, ouais. Écrite par Stéphane Anquetil, qui fait aussi les Crime Zoo, mais je crois, j'irai vérifier, mais il me semble bien qu'il est derrière ça.
Et l'île du Forban, ouais, tout à fait. Et moi, j'avais vraiment bien aimé celui-là, parce qu'ils essayaient justement des nouvelles petites astuces et tout ça, et dans Noir, tu pouvais casser la gueule aux témoins, quoi. Et ça, c'est quand même super cool.
Oui, c'est chouette d'avoir ces possibilités, d'avoir l'impression d'agir vraiment sur ce qui se passe dans le jeu et que ça change, que tes décisions vont avoir un impact, en fait. C'est tout ce qu'on a envie de ressentir.
C'est ça. Et tu soudoyais. Et le truc, alors, comme dit Elodie, chanter à tue-tête pendant les 20 prochaines secondes, parce que je vais spoiler un truc. Attention, c'est parti. Tu pouvais mourir. Fin du spoil. Et ça, c'était trop cool. Enfin, tu dis, ah ouais, quand même.
Est-ce qu'on passerait pas de l'autre côté du miroir ? C'est au tour d'Alice de l'autre côté du miroir, un retour négribouille pour 2 à 6 joueuses qui a la particularité de se jouer sur les deux faces de notre feuille. Vous devrez justement emprunter les miroirs se trouvant sur votre grille pour pouvoir basculer de l'autre côté. Le but étant de récolter le plus de points, vous progresserez en plaçant des formes imposées sur votre feuille pour collecter des éléments facilitants ou scorants. Est-ce qu'Alice insuffle un peu de merveilleux au pays des jeux à cocher ? Lewis Carroll nous disait « Mieux vaut être que paraître ». Kurtz, je vais te laisser disserter là-dessus.
Tu as 2 heures.
Alors ce jeu-là, j'y ai joué. J'y ai même tellement joué que c'était ma recommandation de Noël. Globalement, c'est une expérience qui m'a laissé un ressenti très positif, même si tout n'est pas irréprochable. Ce qui m'a marqué d'emblée, c'est cette sensation de fluidité. On est sur un retour des gribouilles qui se prend vite en main, qui n'encombre pas le joueur avec des règles superflues et il te laisse jouer immédiatement. Le jeu te fait traverser le miroir sans te pousser dans le dos, tu avances naturellement, porté par la proposition. La contrainte d'adjacence est simple mais efficace, et surtout le passage à travers le miroir, avec le retournement de la feuille en cours de partie, est une vraie bonne idée. Ce renversement change complètement la lecture de ce que tu as construit, sans jamais te donner l'impression que ce que tu as fait avant était une erreur. C'est malin, c'est élégant, et c'est très cohérent avec le thème. Il y a aussi un vrai plaisir dans la construction personnelle. À partir des mêmes cartes et des mêmes formes, chacun crée un monde totalement différent. On regarde régulièrement la feuille des autres par curiosité, presque par fascination, plus que par esprit de comparaison ou d'optimisation. Maintenant, il y a quand même quelques réserves. Le jeu, il a eu une communication désastreuse. On n'en a quasiment pas entendu parler. Ce qui n'aide pas vraiment à le mettre en valeur. Ensuite, il y a la question des feuilles en papier qu'on jette. En 2025, oui, parce qu'il est sorti en fin d'année dernière, ça passe moins bien. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre en place un système avec un plateau qui se replie, comme c'était le cas dans certains jeux?
Dans Daydream, ouais, c'est ce qu'ils avaient fait avec les panneaux, en fait, qui s'ouvrent.
Exactement, c'était peut-être une solution de faire des plateaux à la Daydream avec un stabilo ou un marqueur. Enfin, je sais pas.
Après, t'aurais eu forcément un impact sur le prix, hein.
C'est une bonne question, mais est-ce qu'un feuillet de 50 feuilles revient plus cher ou moins cher qu'un panneau qui resserre indéfiniment? Je sais pas. Après, le scoring final fonctionne très bien. Je tiens à noter aussi la présence d'un mode par équipe, un peu comme dans Day One, mais qui m'a paru plus original et plus différenciant par rapport à l'expérience en solo autour de la table. C'est une bonne surprise, même si c'est pas forcément le cœur de la proposition. Enfin, il y a une chose étonnante, il n'y a pas de mode solo officiel pour ce jeu, pas dans la boîte. Il en existe, on peut en trouver sur internet qui circulent, qui sont très bien. Le jeu s'y prête assez naturellement, mais c'est un petit manque, ça aurait fait quelque chose, ça aurait été un petit plus. Au final, Alice, de l'autre côté du miroir, reste un jeu doux, malin et poétique, qui privilégie le ressenti à la performance pure. Un jeu imparfait, avec quelques choix discutables, qui propose un vrai moment de jeu à part. Et ça, franchement, c'est déjà beaucoup. Et je tiens à dire que je pars quand même un petit peu biaisé sur tout ce qui est jeu qui concerne Alice au Pays des Merveilles. C'est un univers que j'apprécie particulièrement. Il paraît que je suis pas forcément le seul de l'équipe de Proxy Jeux à aimer l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Bon, on dira pas de nom, que les coupables se dénoncent, mais voilà.
Mad, serait-ce un appel à ta prise de parole?
On dirait, oui. Bon, moi, Alice, j'en ai fait le tour, hein, par contre. Au secours. Non, non. Pardon. le truc chouette que tout le monde cite, hein, et tu en as parlé aussi, c'est le côté un peu waouh de « Allez, je plie ma feuille à la fin et il y a le scoring qui se fait des deux côtés. » Ouais, c'est cool, c'est chouette, tout ça. Mais bon, une fois qu'on a eu ça une fois, après, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que ce jeu est-il cool? Ce jeu est-il cool? Bon, ce qui est sympa, c'est de faire attention aux deux faces de la feuille en même temps, à regarder si tu fais pas trop l'un, trop l'autre, à quel moment tu vas passer de l'autre côté du miroir, tout ça. C'est pas désagréable à faire. Voilà, les différents scorings, les terrasses, les hérissons, les flamants roses, tout ça, c'est mignon, ouais, ok, ouais. Par contre, il y a quelque chose qui manque, quoi. Il y a pas de montée en puissance. Du début à la fin, il n'y a pas de combo comme on peut avoir sur certains jeux, voilà, il y a toute la gamme des tréfutés, il n'y a pas le côté de nuisance où on va aller faire suer les autres, si on va peut-être aller shipper une théière un peu plus intéressante et tout ça, mais bon, il n'y a pas ce côté-là non plus, alors...
À part le pouvoir des théières, il n'y a pas de montée en puissance, je suis d'accord avec toi, oui.
Et encore, faut-il choper une théière avec un petit pouvoir sympathique, quoi.
Faut choper la bonne théière au bon moment, oui, oui.
T'as les théières qui font du scoring pur, t'as des théières qui te font cocher des trucs, voilà, des one-shot, puis après t'as des théières avec des petits pouvoirs, mais celles-là, elles sont aussi un peu costauds à avoir, quoi. Donc, vous avez parlé de Daydream, et du coup, je me suis dit, j'ai l'impression que je préfère quand même Daydream à Alice, parce que, lancer les dés, c'est quand même cool. C'est quand même plus sympa que de retourner des cartes. Alors, ils ont des points communs, hein. Il y a ce truc de se bloquer aussi à un moment donné, donc on a le jeu nous permet d'avoir un peu la main avec des petits modificateurs. Il y a les feuilles du ficus dans Daydream, il y a les cupcakes qui te permettent de finir une terrasse au bon moment. Ils sont assez similaires. Je crois que je me suis plus amusée à Daydream que à Alice. Et à un moment donné, Kurtz, tu dis que le jeu par équipe, c'est pas le cœur, si je reprends ton expression, c'est pas le cœur du jeu. Et moi, j'ai l'impression que peut-être c'est là qu'il y a l'originalité de Alice, parce que je n'ai pas joué par équipe, mais j'ai regardé attentivement les règles et j'ai regardé aussi des parties où les gens jouaient en équipe, et j'ai l'impression que la vraie originalité, enfin, une fois qu'on a passé le coup du miroir et du scoring et tout ça, que la vraie originalité, elle est peut-être dans ce jeu par équipe, parce que quand tu regardes le jeu par équipe, tout est fait pour qu'il y ait de la concertation plus. Tu te concertes à tous les coups avec ou quasiment avec ton ou ta partenaire, parce que t'as un système de clés que l'un doit récupérer pour que l'autre puisse accéder à certaines zones de sa feuille, avec une histoire de course pour aller choper un item, je crois que c'est une couronne. Tu peux te partager les cupcakes et les boissons. Il y en a un qui les récolte, mais l'autre peut s'en servir aussi. Donc voilà, autre façon de parler ensemble. Et puis le pion première joueuse qui passe de une joueuse après l'autre, en fait, il faut que t'ailles le chercher. C'est-à-dire qu'une équipe peut avoir pendant 4 ou 5 tours le pion première joueuse si l'équipe d'en face ne va pas aller lui récupérer. Vous voyez, c'est des petits nœuds bleus à aller chercher. Ça rapporte quelque chose encore. Puis après, il y a les gardes, les cartes à jouer, là, qui donnent des points négatifs. Parce qu'à un moment donné, si tu tombes dessus, voilà, tu coches, et je crois que par l'autre 2, ça te fait des points négatifs. Mais tu peux avoir des boucliers que l'autre va choper, qui va renvoyer les cartes à l'équipe adverse. Autre chose aussi, les terrasses. Alors, je prends le temps de tous les énumérer, parce que je trouve qu'il y a vraiment des trucs intéressants dedans. Le coup des terrasses, qui quand même permettent de scorer sacrément quand on joue tout seul. Hein, parce que l'erreur à ne pas faire quand on joue en solo, enfin en individuel contre les autres, c'est de faire un peu de tout. Parce que si tu fais un peu de tout, finalement tu fais pas beaucoup de points dans chacune des catégories. Si tu fais les 4 terrasses, t'as quand même 60 points. C'est quand même plutôt... C'est pas dégueulasse, c'est 60 points. Quand tu sais que les parties, quand t'as bien joué, t'es autour de 100 points, bah c'est déjà une belle affaire. Bref, je ferme la parenthèse. Pour revenir aux terrasses dans le jeu par équipe, en fait, le truc, c'est que si tu fais la même terrasse que ta partenaire, c'est-à-dire qu'on a toutes les deux fait la terrasse verte, tu doubles le scoring vert. Parce que, en fait, les zones sont colorées. Et donc, c'est hyper intéressant. S'il y en a qu'une des deux qui fait la terrasse verte, c'est tout. Mais si on les fait toutes les deux, eh ben, on double les points de la terrasse verte. Alors, autant vous dire que ça peut... Enfin, j'ai l'impression, une fois de plus, j'y ai pas joué. Mais que ça peut monter dans des trucs un peu sympas. Donc, pour moi, peut-être que... Et je l'ai fait un peu tardivement, donc j'ai pas pu y essayer. Mais peut-être que le cœur du jeu, l'originalité de ce jeu, il est dans le par équipe.
Je suis... parfaitement d'accord. Et je me demande même si l'intention initiale était pas de proposer justement un jeu en équipe. Moi, j'adore hein, les roulés gribouilles, enfin les X et gribouilles d'une manière générale. On est aussi en quelque sorte souvent des joueuses en solo. On aime bien faire notre truc dans notre coin, à cocher, tu vois, sur des jeux qui sont parfois un peu complexes, comme on a pu avoir dans The Anarchy là récemment. Et je me demande si le jeu initialement n'était pas fait pour être joué en équipe et qu'ils ont secondairement réfléchi à ce jeu en chacun pour soi, comme c'est dit dans la règle.
J'ai envie de faire le parallèle avec Zenith en fait. On parlait de Rebirth nommé à l'As d'Or, Zenith nommé à l'As d'Or, qui est très solide, hein, on est d'accord, même en individuel, oui. Un contre un, mais dont le mode équipe apporte quelque chose, oui. Voilà, avec les deux joueurs de la même équipe qui jouent l'un à la suite de l'autre et tout ça, qui apporte quelque chose aussi. Moi, j'ai l'impression que peut-être, ouais. Moi, je trouve que ton hypothèse, elle s'entend, en fait.
Je sais pas, il faudrait interroger les auteurs, l'autrice et l'auteur.
Allez, vous êtes à Cannes dans quelques jours, allez-y, allez les voir. Hein.
Oui, mais j'irai poser la question.
Pour moi, ça rentre dans la communication qui est pas terrible. Le mode par équipe, il est relégué à la fin des règles en disant « Ouais, vous y regardez si vous voulez, on a mis un truc à la fin. » Alors que, comme vous dites toutes les deux, en fait, c'est peut-être même la base et le cœur du jeu, c'est peut-être l'intention première.
Parlons de ce livret de règles avec les chapitres comme des intercalaires. Je dis « Mais oui. Oui, c'est un vrai mais plaisir oui, visuel et tactile. »
Pour finir sur cette histoire de jeu en équipe, moi j'avais plus trop envie de jouer à Alice, voilà, j'avais joué, j'avais eu mon petit effet waouh, j'ai dit ah ouais, ok, c'est sympa, c'est voilà. Mais là j'ai vraiment envie d'y jouer en fait, j'ai envie d'y retourner, je veux expérimenter ça.
Moi j'y jouerai plus en chacun pour soi, je vais n'y jouer que en mode équipe. Clairement, au niveau des sensations, c'est pas foufou en chacun pour soi, et en plus sur toutes mes parties, moi j'ai eu l'impression d'arriver à peu près au même résultat à chaque fois. Donc globalement, la joueuse un peu aguerrie de jeu à cocher, elle y verra pas de défi particulier dans l'anticipation que le jeu demande. Savoir anticiper sur à quel moment tu vas basculer de l'autre côté, à quel moment tu rebascules pour optimiser tout ça. Bon, au final, une fois que tu as compris le truc, si en plus tu as un peu l'habitude des X et gribouilles, bon, tu devrais pas être trop dans le challenge. Et le mode en équipe, je dis oui, un grand oui en fait, c'est ce que tu disais. C'est la course, c'est clairement la course. On discute avec son partenaire, on va se partager les potions, les cupcakes, on se coordonne et le but c'est d'exploser les scores en fait. Quand tu fais du x2 sur certaines zones, t'as des scores qui sont explosés, et donc il y a beaucoup plus de challenge.
Et là tu l'as, la montée en puissance.
Et là tu l'as, Et là, tu la recherches et tu vas réfléchir par rapport à ça et être beaucoup plus actif dans ta réflexion commune. Et c'est là qu'est le challenge. Et en plus, le fait de pouvoir s'embêter, de se faire embêter avec ses gardes qui viennent, qui repartent, c'est super chouette. Donc ouais, le jeu en équipe à 100%. Et bon, malheureusement, on fait un petit bisou à Cyrus au passage. Ça ne convertira pas les allergiques au jeu à cocher.
Non, et puis la question, c'est est-ce qu'en boutique, sur une étagère, un jeu par équipe, puisque c'est vendeur.
Ouais, mais tu peux quand même dire, quand tu vends le jeu, ne passez pas à côté du jeu par équipe, tu vois.
Mais c'est ce qu'on fait ce soir, en espérant que notre discours soit entendu, parce que réellement, pour moi, l'intérêt du jeu est là. On termine en musique avec DJ Set, un quiz musical qui vous demandera de chercher des mots particuliers en lien avec un thème. Le thème est annoncé, le DJ scanne un QR code qu'il envoie sur une page dédiée et lance une série prédéfinie de 7 titres. À vous de chercher dans les paroles, le titre, les associations d'idées possibles pour annoncer le mot ou la phrase en rapport avec le thème avant vos adversaires. Après Hitster, voici un autre jeu qui révise le blind test. Mad, à toi le micro.
Alors, je vais pas passer en mode karaoké, hein. Je reste...
Oh.
Quand t'as dit à toi le micro, ça y est, je me suis vue sur la scène et tout ça, mais non, je vais redescendre un petit peu.
Boule à facettes et tout un toit.
Habit de lumière. On disait tout à l'heure que j'étais aigrie et que, en fait, j'ai essayé de plus avoir trop d'attentes et d'être ouverte. Tu vois, j'ai joué à Yubibo, voilà, allez, on ouvre les chakras, pas d'attente particulière. Et en fait, DJ Set, il est un petit peu dans cette vague-là. C'est ma ludicaire, coucou Alban, qui m'a donné les cartes de démo un jour où j'achetais un calendrier Exit ou deux. Je crois que j'en ai acheté deux ce jour-là. Qui me dit, tiens, bah voilà, y a ce jeu-là, tout ça. Je dis, oh bah ouais, cool, sympa. Et puis, en toute bonne ludomaniaque, j'ai toujours un jeu ou deux dans mon sac. Et avoir des petites cartes comme ça dans mon sac à main, je trouvais ça cool. J'ai pu faire jouer mes copines au boulot. Je trouvais ça sympa. Et puis bon, voilà, vite fait, les 3-4 cartes que j'avais eues, c'est sympa. J'ai fait jouer plusieurs personnes. Et puis, ce jeu, moi, j'ai l'impression qu'il a eu quand même un beau succès, notamment les fêtes de fin d'année, où il y a pas mal de gens qui ont joué en soirée avec des copains. Le jeu du réveillon, tout ça. Et puis, l'émission. Alors, je m'y suis de nouveau intéressée. J'ai acheté la boîte et puis je kiffe. Je kiffe. On y joue à deux, donc avec Alice. On est toujours là. Bon, allez, encore une carte. Allez. Encore une carte. Et puis, on y joue le soir avant de se coucher. Et puis, le matin, quand c'est un peu dur de se lever, tout ça, allez, hop, une petite bande son. Bon, voilà, c'est le thème les grands, les petits, c'est parti. Et donc là, on a commencé il y a quelques jours et on est presque terminé la boîte. Et donc, ceux que je préfère, je les mets de côté pour les faire jouer au boulot. Je me dis, bon, tiens, ça peut être sympa. Ceux-là, ils sont vraiment bien, donc je les mets de côté. On kiffe parce que finalement, on a un bon équilibre entre moi, la vieille, et elle, la jeune. Un coup c'est elle qui trouve, un coup c'est moi, un coup c'est toutes les deux, et puis on se met à chanter, et puis on se marre parce qu'on trouve que la ref elle est bien trouvée, ou alors on comprend pas tout de suite mais pourquoi ce truc là, ah purée mais oui, on regarde, un coup il y en a une qui regarde des indices pour l'autre, voilà, bon public quoi, on chante, on rigole, on apprécie les trouvailles, alors ok, il y a des trucs datés, il y a des chanteurs qu'on aime pas trop, qu'on aimerait plus entendre et tout ça, mais nous on le prend vraiment comme ça vient, le côté léger du truc qui finalement fait du bien dans cette période, et puis qui fait que on part au boulot, on part au lycée en se marrant un peu et puis en ayant des chansons dans la tête. Et puis, attends, je vais te faire découvrir. Ah ben, tu connais pas ce chanteur. Attends, je vais te faire découvrir. Donc du coup, on écoute d'autres chansons, on écoute d'autres musiques. Et c'est vrai que je me suis plaint un certain nombre de fois de « elle est pas dispo, elle joue pas trop » et tout ça. Là, on joue tout le temps. Allez, juste pour le plaisir, 2-3 thèmes qui vraiment, je trouve super cool. Il y a un thème, c'est « SMS de rupture ». Il faut les sujets philo. Alors, si vous avez la boîte, cherchez ces 3 trucs-là dès le départ, si vous voulez vraiment commencer fort en feu d'artifice. Voilà, ça nous fait marrer. Étonnamment, et vraiment, je m'y attendais pas, c'est le jeu que je préfère de la sélection de ce soir.
D'accord. Kurtz ?
Alors, ce qui est bizarre, c'est que pour ce jeu, au moment de le tester, j'ai eu une grosse déception, parce que c'est pas du tout ce que je m'étais imaginé. Je sais pas pourquoi, j'avais lu quelque part, j'avais dû lire le pitch très vite, et dans ma tête, je m'étais dit, mais c'est absolument génial, ce jeu va nous passer des morceaux de musique, et ce sera à nous de retrouver le lien. Mais pas du tout, c'est pas du tout
d'accord.
Ça, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Et en fait, je m'étais... Non, parce que là, le sujet, il est donné, il est écrit sur la carte. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est nul, on sait, la réponse c'est ça, la réponse c'est SMS de rupture. Alors que moi, dans ma tête, je m'étais dit, il va nous passer un premier morceau, Ok. Deuxième morceau. Ok. Puis quand je pense que j'ai trouvé, je prends la carte, je marque les points. Etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est un autre
Faudrait
jeu.
Faudrait l'éditer, ce jeu. Allez, c'est parti, proto. Bêta testeuse, on est là.
Après, c'est amusant, c'est plaisant. Quand le thème, c'est les animaux, que ça balance la musique de la panthère. Panthère ! C'est génial. Après, il y en a qui sont plus durs. Mais c'est quoi cette chanson ? Je la connais pas. Voilà, c'est le fameux fossé générationnel dont parlait Mad. C'est rigolo. Après, comme toujours, le jeu a des limites. C'est un jeu où l'appli est absolument indispensable. Sinon, il faut avoir une discothèque monstrueuse chez soi et c'est pas possible. Flavien disait, lui, il aurait apprécié que, par exemple, les playlists changent.
Pour éviter l'aspect, en fait, périssable.
Périssable, par exemple, on a toujours SMS de rupture, mais ça balance cette autre chanson.
C'est encore un jeu à spoil, hein, donc on peut pas trop vous donner d'exemples précis. Hein, c'est le troisième jeu à spoil ce soir.
Voilà, après, Matt, je sais pas ton état de mémoire, ce genre de choses, etc. Est-ce que si on te remet une carte que t'as déjà jouée, est-ce que tu vas pas être au taquet tout de suite?
Il y a des choses qui sont suffisamment rigolotes et originales, en fait, pour que tu t'en souviennes à cause de ça.
Il y en a plein des cartes. Là, on va toutes les faire, mais parce qu'on est dans ce délire-là et qu'on a envie, que ça nous fait marrer et tout ça. Mais c'est vrai que c'est un truc d'un moment donné, quoi. C'est comme quand tu binge-watch à l'épreuve du diable. Voilà, tu binge-watch parce que voilà, et puis après tu passes à autre chose. Moi, je le vis comme ça. Moi, je trouve que le moment que je partage là, il est vraiment super cool et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un moment comme ça à deux. Et puis ça nous fait marrer. Et puis ça nous donne une bonne pêche, quoi. Voilà, sans prétention, juste voilà le plaisir de kiffer le truc. On se prend pas la tête, c'est pas un KS avec les figurines et tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce truc un peu frais, un peu léger, qui nous fait marrer et qui fera peut-être pas marrer d'autres. Je suis pas en train de dire que c'est le jeu de l'année, mais pour nous, en ce moment, c'est le jeu qui nous fait du bien, quoi.
Ouais, et puis qui te force à réfléchir d'une manière différente quand t'écoutes la musique. Hein.
Oui.
Là où t'as l'habitude de répondre un titre ou un nom d'artiste.
C'est vrai.
Là, en fait, tu vas vraiment chercher le mot à cibler qu'on te demande par rapport au thème et c'est pas forcément facile.
Ouais, mais moi je suis pas très forte au blind test classique en fait. J'ai pas une grande culture musicale. Oui, des fois je trouve des trucs, je dis je sais pas si je devrais en être fière quoi. Je dis, ouais, tu reconnais un truc de pub ou une émission de télé, tu dis bon ok, moi, je connais ce truc là, je sais pas si c'est vraiment très glorieux quoi.
Ou de réussir juste à faire l'association d'idées avec le mot en question dans la chanson et le thème proposé, c'est assez chouette.
C'est une astuce à trouver en fait.
Ouais, ça te force à réfléchir d'une manière un petit peu différente. D'un point de vue édition, Flavien il voulait qu'on on en touche un petit mot aussi. Et c'est vrai qu'ils auraient pu essayer de faire le recto verso sur les cartes. Ça aurait pu augmenter un peu la durée de vie du jeu. Après, une fois que vous l'avez fait chez vous, vous pouvez aussi le faire découvrir à d'autres en vous mettant uniquement dans la position de DJ. Faire découvrir les autres et de les voir justement galérer et d'ouvrir grand les yeux en mode « je vois pas trop le rapport là ». Le système avec les QR codes, il est facile à utiliser. Ça renvoie sur une page qui est dédiée. C'est très immédiat. Hein. C'est ce qui te permet toi d'y jouer facile avant de partir le matin, tu
au
scannes et puis c'est parti. Et surtout, non dépendant de Spotify, comme pouvait l'être, par exemple, Itzer, pour parler d'un autre jeu qu'on va forcément mettre en parallèle parce qu'il essayait de revisiter un petit peu le système du blind test aussi. Sur la boîte, il parle que c'est pas une question de rapidité. Ça reste une question de rapidité quand même. Hein. C'est quand même beaucoup plus explosif que dans Itzer.
C'est le premier cas à la ref qui marque les points, là, de toute façon, donc oui.
Ça reste une histoire de rapidité, quand même, là-dessous. Par rapport à Hitster, c'est plus explosif, c'est plus bruyant. Ceux qui crient pour les blind tests vont crier la réponse, là aussi, hein, j'en fais partie. C'est difficile de s'en empêcher, je sais pas, il y a un truc, blind test, on crie. Donc j'essaye de me mettre un peu plus en mode DJ, comme ça, au moins, je me trouve pas à hurler pour rien à la maison. Et ça reste une façon plutôt sympa de rafraîchir le blind test, à mon sens. On revient au blind test qu'on pouvait faire en choisissant les thématiques. Après, c'était des choses beaucoup moins précises. Quand on se faisait des blind tests sur les musiques de dessins animés, moi, je me rappelle...
Oui, c'est ça. Les génériques.
C'est ça, les génériques de séries, les génériques de dessins animés. On doit pouvoir même élargir et se faire chacun nos propres petits blind tests thématiques avec des références un peu humoristiques, un peu rigolotes. C'est assez chouette, ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ou est-ce qu'on conclut ?
Moi, je voulais juste dire qu'avec les jeux de ce soir, on observe quand même une tendance parce que tous ont une variante à deux ou du scénario, du contenu additionnel. T'as l'impression que pour que le jeu soit éditable, je sais pas si le terme est le bon, mais il faut qu'il y ait, voilà, faut qu'il y en ait sous le pied, quoi. Il faut proposer plusieurs scénarios, des variantes à deux, des défis, des volcans, des villages lacustres, des cartes en plus. Petite remarque. Ça vous plaît? On vous en remet un petit peu.
Vous en reprendrez bien un petit peu, ma petite dame.
C'est ça. J'ai demandé 500 grammes de chair à saucisse, tu m'en mets 1,2 kg. Non, je ne prends pas plus.
Oui, mais elle a un autre goût. Elle est parfumée avec autre chose. Et c'est là-dessus qu'on vous quitte. Nous voilà arrivés au terme de cette émission. Vous retrouverez toutes les références abordées sur le billet du site internet podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i, jeu avec un x. On vous encourage à venir y laisser vos remarques et commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, vous serez lus avec attention. Nous sommes également présents sur la plupart des réseaux sociaux, dont Blue Sky et Mastodon, ainsi que sur Discord, où vous trouverez un canal dédié à l'émission. Je vous rappelle aussi que sur le site, vous pouvez accéder à un wiki qui vous offre des définitions du jargon ludique. N'hésitez pas à vous y référer si besoin ou par curiosité. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez faire un don via PayPal ou par virement. Rendez-vous sur le site pour la procédure à suivre ou contactez-nous en message privé. Et voilà pour l'émission de ce soir. Alors, on devait se faire un petit point sur... T'achètes pas ? Alors, au final ?
Moi, je revends.
Alors... J'achète et je revends ou j'achète et je garde. On peut changer. Qu'est-ce que tu gardes de tout ça, Matt, ce soir ?
Bah, DJ Set, je vais le garder. Non, je pense que je vais l'offrir à ma sœur parce qu'elle va kiffer aussi. Par contre, je vais me séparer de Yubibo et de Butterfly Effect, je pense.
Kurt ?
Le seul que je serais tenté de pouvoir joindre ma collection, ce serait Yubibo, je pense.
Ah bah, j'ai un acheteur alors. Ça y est, j'ai mon acheteur. Parfait.
Je garde Alice, mais clairement en mode équipe. Vraiment, chouette sensation. Et finalement, je pense que je garde Day One aussi. Et vraiment, cet aspect course qui, au final, m'a plu plus que ce que je m'imaginais sur mes premières parties. Et bah, merci à tous les deux d'être présents ce soir. On a une petite pensée pour les absents.
Nos malades.
On a essayé de rapporter un petit peu leurs propos. On espère qu'on n'a rien déformé. Vous serez libre de venir, vous aussi, vous exprimer dans les commentaires si vous avez des choses à rajouter. Venez.
Ma fille me disait, tu vas parler de DJ Set et donc il y aura Elodie. Mais qu'est-ce qu'elle va dire sur les illustrations ? Voilà, je trouvais que c'était mignon.
Elodie, tu viendras nous dire ce que tu penses des illustrations de DJ Set sur les commentaires. Merci à tous les deux. Et puis, on va se quitter là-dessus alors. Et merci aussi à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 2 mois pour un nouveau jeton. La semaine prochaine, vous pourrez découvrir les chroniques de février. On vous dit à très bientôt. Et surtout,
jouez bien.